à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la rédaction de Game Info. Aujourd'hui, c'est notre épisode numéro 371, ici Mordren, et je suis en compagnie du Tyran. Salut Tyran.
Salut.
Et nous sommes sans ATH, ATH qui a dû annuler sa venue en ce lundi de Pâques. On espère que ça va et on lui fait un gros bisou. Au menu du podcast cette semaine, on va parler de pas mal de choses. Un petit courrier des lecteurs, ensuite on va prendre des nouvelles du Tyran parce que je crois que ça va pas du tout. Ensuite on parlera du coin des mods, mais aussi des fangames. On parlera de la fermeture de PlayStation Store sur certaines consoles, mais aussi d'Outriders, de Super Mario 3D All-Stars, de Lootbox, une fois n'est pas coutume. Non, on parle tout le temps de lootbox, donc c'est pas très grave. Vous allez voir une nouvelle étude qui est assez intéressante de ce point de vue-là, et puis d'Intel qui essaie d'innover dans le filtre vocal anti-insulte, mais ça, on en parlera en fin de podcast. Le courrier des lecteurs, alors j'ai envie de vous dire, le courrier des lecteurs, c'est plutôt le courrier de la teigne, puisque...
Écoute, c'est pas ma faute s'il y a une personne qui passe sur le site internet qui n'est pas là pour interagir avec nous, du coup, pendant les directs. Hein,
donc, évidemment, on fait un coucou à la teigne qui nous envoie régulièrement des commentaires.
Fidèle parmi les fidèles.
Souvent intéressant, et son commentaire, justement, d'il y a 3 jours, est intéressant, puisqu'il nous interpelle, finalement, sur le fait, oui, vous parlez beaucoup du Game Pass, mais vous parlez peu de... l'alternative chez Sony, et c'est vrai, alors on en a déjà un petit peu parlé, hein, au moment de son annonce de l'alternative chez Sony, on appelle ça la PlayStation Plus Collection, et ça on en avait déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que régulièrement on parle de Game Pass, parce que tous les deux, Tyran et moi, on en est des abonnés.
C'est ça en fait.
C'est vrai que bon, c'est plus compliqué de parler de choses qu'on n'utilise pas, ou pour lesquels on n'est pas abonné. Moi, en l'occurrence, la PlayStation Plus Collection, je la côtoie assez peu. Donc, qu'est-ce que c'est la PlayStation Plus Collection ? C'est vous êtes abonné PlayStation Plus, donc l'abonnement qui vous permet d'accéder aux services en ligne de PlayStation. Et en plus de ça, et c'est nouveau hein, avec l'arrivée de la PlayStation 5, vous avez toute une ribambelle de jeux qui sont souvent des PlayStation Hits, mais pas que, qui sont inclus et qui sont du coup à télécharger sur votre console, que ce soit une PS4 ou une PS5. Dedans, il y a pas mal de jeux qui sont first party. Je pense notamment à des jeux comme Days Gone, comme Ratchet & Clank, des choses comme ça, tu vois.
Temps en temps, t'as aussi des nouveautés du côté des jeux indépendants, notamment. Là, par exemple, dans les annonces qu'il y a eu récemment, t'as Allward Soulstorm qui sera disponible via ce format-là.
Ouais, alors ça pour le coup, c'est les jeux PlayStation Plus. Donc, c'est ces jeux qui sont disponibles que sur la durée d'un mois, qui sont offerts, entre guillemets, aux abonnés. Et en général, il y en a 3.
Oui, d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus. Parce que ça par contre, c'est pas de sa faute à la taille, hein, mais parce que c'est souvent... quelque chose que j'entends notamment mon travail et ça a tendance à me répiler parce que tu sais à mon travail ils aiment bien tu sais vendre des services à nos clients et pour faire quelque chose de plus rose tu vois on dit aux clients et en plus vous avez le droit à gratuitement à ça ça non c'est du bullshit de commercial enfin je suis désolé moi quand je discute avec les clients de ma boîte au téléphone je suis technicien je leur dis vous payez un abonnement, et dans votre abonnement, c'est inclus. Parce que c'est ça, la vérité, en fait.
Ah oui, c'est ça.
C'est pas genre, on t'a mis un petit service en bonus, etc. Non. Tu penses bien que si la boîte en question, jugeait que le service pouvait être vendu à part, il le ferait.
Hein? Bien sûr.
C'est juste que là, ils ont, pour revenir dans le cas de Sony, par exemple, ils ont une offre à la base qui est de te vendre un abonnement pour pouvoir jouer en ligne. Mmh. Et par-dessus, pour enrichir l'offre, ils ont rajouté ça. Mais ça reste inclus dans ton abonnement. Hein. On va pas. Ils ont fait ça parce qu'ils ont jugé que ça, il y avait besoin de ça pour rendre l'offre plus attractive. Ce que je peux comprendre, parce que vous connaissez mon point de vue sur la question. Payer pour jouer en ligne. Quelle que soit la console, que ce soit la Switch, la Xbox ou la PS4 ou la PS5, rien à foutre, je préfère crever plutôt que payer ça. Donc il n'est pas question que je paye un abonnement pour jouer en ligne. Et je comprends du coup qu'il fasse ça parce que bah forcément c'est pour attirer les gens qui seraient récalcitrants à payer un abonnement en ligne, tout simplement.
Et surtout que de toute façon ça reste une réponse à un des gros trucs de chez Microsoft, c'est le Xbox Game Pass. Et pour le coup, c'est la PlayStation Plus Collection est très intéressante pour quelqu'un qui n'a pas eu de PS4. Ou alors à peu de jeux PS4. Puisqu'en réalité, quelqu'un qui a tous les jeux first party PS4, la PlayStation Plus Collection, bon bah ça lui en touche une sans le faire bouger l'autre, j'ai envie de tenir. Après, il y a pas mal d'autres jeux qui sont aussi disponibles et qui sont de la part des éditeurs tiers. Je pense notamment à Monster Hunter World, je pense à FF4 15, Fallout 4, des choses comme ça. Tu vois, il y a Batman Arkham Knight, il y a Battlefield 1, il y a Persona 5. Voilà, il y a pas mal de trucs qui sont très 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 intéressants et c'est vrai qu'il faut le dire. Après, pour le coup, autant je trouve que les jeux PlayStation Plus gratuits entre guillemets, sans coût supplémentaire, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. De chaque mois sont plus ou moins intéressants. Donc là, on parle du mois d'avril. On a Oddworld Soulstorm qui sera disponible sur PlayStation 5, Days Gone sur PS4. Ça, c'est plutôt intéressant et c'est assez en ça répond au Games with Gold de Microsoft. Autant la PlayStation Plus Collection qui est censée répondre au Xbox Game Pass, elle s'incrémente beaucoup moins et beaucoup plus lentement que le Game Pass de ce point de vue-là. Donc ça, c'est aussi une des choses sur lesquelles il faut insister, quoi.
Oui, bah, après, encore une fois, nous, on parle de notre point de vue de consommateur, en fait, dans ce podcast. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à être exhaustif. D'ailleurs, on pourrait, je dis ça au passage, de faire la même remarque vis-à-vis de l'Epic Game Store.
Bien sûr.
L'Epic Game Store fait régulièrement des offres de jeux gratuits. Vraiment gratuits, c'est-à-dire que tu arrives, tu prends ton jeu et tu te casses.
Toutes les semaines.
Toutes les semaines. On n'en parle jamais.
Non.
Voilà. Et pourquoi j'en parle jamais? Bon, déjà parce que j'estime que l'Epic Game Store, c'est de la merde, mais ça, c'est mon point de vue personnel. Mais surtout, je fais partie de ces gens qui se disent, j'ai déjà pas le temps de jouer aux jeux auxquels je vais jouer, je vais pas aller prendre des jeux gratuits, en fait. Tout simplement. Alors, ça peut arriver qu'il y ait un jeu gratuit qui m'intéresse et auquel j'ai pas joué, mais honnêtement, c'est rare. Parce que généralement, quand les jeux m'intéressent, je l'achète.
Ouais.
Même si je vais pas y jouer tout de suite.
Il y a une dernière chose sur laquelle Latène voulait qu'on revienne, c'était l'initiative Play at Home que PlayStation avait menée l'an dernier avec le premier confinement. Et c'était en fait la mise à disposition.
Ils n'ont pas renouvelé récemment ?
Si, justement. C'est pour ça que je voulais en reparler. C'est la mise à disposition, là pour le coup, gratuitement de jeux. Sur console PlayStation et cette opération a été reconduite c'est pour la fin du mois de mars, fin du mois d'avril avec des jeux très intéressants si vous les avez jamais fait. Il y a Subnautica, Enter the Gungeon, Abzu, The Witness, Res Infinite, ainsi que 4 jeux PlayStation VR, c'est pour ça à mon avis que Latène nous interpelle là-dessus, dont Astrobot Rescue Mission, Moss, Thumper et Paper Beast. Et puis plus tard, vous aurez aussi Horizon Zero Dawn Complete Edition. Donc voilà, c'est pas que des petits jeux. Donc évidemment, si vous êtes possesseur de console PlayStation, si vous êtes également possesseur d'abonnement PlayStation Plus, n'oubliez pas de récupérer ces jeux-là. Évidemment, les récupérez pas tous, si vous intéressent pas tous. Mais si vous intéressent, les laissez pas passer. Voilà.
Voilà, okay. Voilà. Bah, sinon, rien, pas grand chose à dire, encore une fois, hein. Bah, c'est bien. Voilà. c'est mon commentaire là-dessus, c'est bien.
Voilà. Non, mais c'est important aussi de temps en temps de le redire. Évidemment, en tant que consommateur, souvent, on paye beaucoup. Et là, quand on a un petit peu plus par rapport à son prix d'abonnement, bah, n'hésitez pas à en profiter. Voilà. Alors. Bon. Tiens, il faut qu'on parle.
Oui.
Est-ce que ça va?
Ah non, ça va pas très bien, non.
Ça va pas.
J'ai refait une rechute, non, ouais. C'est pas possible.
T'étais retombé dedans.
Oui, bon, d'accord, oui, c'est bon, je me suis remis à 2-2, et quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon.
Pourquoi? Pourquoi, explique-moi.
Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, je me suis dit tiens, ça serait l'occasion de tester leur fameux tuto déjà pour voir ce que ça donne. Et puis bon, une chose entraînant une autre, on lance le tuto, on commence à faire des matchs et puis voilà, on est retombé dans la drogue quoi. Donc c'est foutu. Je crois que j'ai plus de 700 heures de jeu sur Dota, donc ça va pas durer, je le sais, parce qu'il y a un moment donné où je vais insulter quelqu'un et du coup je vais m'arrêter parce que je vais me dire c'est pas bon pour ton cœur, faut que t'arrêtes quoi. Mais très sincèrement, alors juste pour aller dans le concret, par rapport au tuto, parce que honnêtement c'est plus pour ça que j'ai mis cette semaine. Alors c'est mieux. Hein, ils t'apprennent les mécaniques de base, etc. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui me chagrinent dans la manière dont c'est fait, surtout dans ce qu'ils t'apprennent. Notamment, moi, il y a un truc... alors certes, le jeu est beaucoup plus accueillant, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'ils t'apprennent petit à petit les mécaniques, et ensuite, ils te mettent un mode de jeu où tu sais, parce que dans Dota, tu dois acheter des items pour tes personnages, etc. Et en fait, il y a une version simplifiée du mode de match, si tu veux, où on te met des builds préconstruits pour chaque personnage, etc. Et du coup, tout ce que ça va faire, c'est d'aller chercher la sélection qu'on t'a indiquée et pas te perdre dans 3 milliards d'items qui sont dans le shop, quoi. Voilà. Donc, ils ont sorti une version simplifiée qui est plutôt pas mal, qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, moi, j'ai un petit souci. Dota, ça reste un jeu où il faut communiquer. Ou par exemple, quand tu vois que... bah il manque un personnage sur ta lane, c'est-à-dire l'endroit, je rappelle, hein, Dota, une carte, on va dire au centre de la carte, t'as 3 points chauds, un en haut, un au milieu et un en bas à droite.
Voilà. Ouais.
Et sur ces points chauds, généralement, t'as 2 personnes en haut, 2 personnes en bas à droite et une personne des deux côtés au milieu. Et l'idée, c'est que quand tu vois qu'il y a un personnage qui est absent sur ta lane, a priori, quand il est pas là, c'est soit qu'il est en train de ce qu'on jungle. Jungle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il allait buter des mobs en fait, pour aller récupérer de l'argent, du loot, etc. Ça c'est une nouveauté d'ailleurs. J'ai vu maintenant il y a du loot dans Dota. Quand tu vas tuer des mobs de base, tu peux récupérer des items, etc.
D'accord.
Et c'est important de signaler parce que des fois il va pas forcément jungle, il va sur les autres lanes aussi. Donc ça veut dire que s'il est absent, d'un seul coup, tes deux petits compagnons qui sont en haut à gauche et qui sont en train d'attaquer une des tourelles en haut à gauche, bah ils, potentiellement ils vont se faire prendre un revers parce qu'il y a le Gugus qui est plus sur ta lane. En fait, il est allé les voir, tu vois. Et du coup, ils vont se mettre à 3 sur tes potes et toi, comme t'as pas signalé que ben ils étaient, le gars était pas là, les gens sont pas sur leur garde, simplement. Et ça, ils ne t'enseignent pas les raccourcis pour communiquer.
Ah oui.
Et pour moi, ça, c'est un gros manque.
Oui, complètement.
Parce que c'est la base de la communication dans Dota, en fait. Quand tu, même t'es, pour le coup, c'est même pas un jeu où t'as besoin de discuter en vocal avec les gens. Tu peux parfaitement indiquer sur la map où sont les gens. Tu peux aussi indiquer que il y a quelqu'un qui est manquant, etc. T'as des raccourcis pour ça. Et je trouve hallucinant qu'il n'y ait pas de tuto, pour le coup, pour apprendre ça. Alors, c'est bien d'apprendre les mécaniques de base, mais la communication dans Dota, c'est super important, et ça fait partie du jeu, et il n'y a pas de tuto pour ça. Ouais. Maintenant, dernier point, le mode de jeu dont j'avais parlé, qui est le mode, vous savez, où il y a un petit personnage qui te signale ce qui va pas, genre, par exemple, t'as du fric à plus savoir quand en foutre, bah, il pop pour te dire, ça serait peut-être bien d'acheter les items manquants dans ton truc, ça, c'est pas mal. Maintenant, j'ai quand même remarqué que des fois, t'es dans le feu de l'action et tu le vois pas, en fait.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore 2-3 trucs à régler pour le mettre un peu plus en avant parce que des fois, t'es tellement absorbé par ce que tu fais que tu le zappes complètement.
Ouais.
Quoi.
Ouais, en termes de visibilité, c'est peut-être pas encore trop ça. Probablement aussi parce que les développeurs voulaient pas non plus trop surcharger ou trop faire le syndrome Navi, je suppose. Mais
c'est ça.
Ouais. Donc c'est un
truc. Et en même temps, c'est un mode tuto quoi. Donc
ouais, c'est sûr.
Il est là pour t'emmerder, j'ai envie de dire entre guillemets. À un moment donné, si t'en as marre, tu le désactives et puis voilà.
J'avoue. On est d'accord que à l'heure actuelle, ça n'existe pas quand tu changes de champion une espèce de petite zone tuto pour te dire voilà comment on le joue.
Alors, tu as un mode pour tester le champion. D'accord. Maintenant, ils te disent pas exactement comment tu le joues, en fait.
Ouais, c'est à toi de lire un petit peu les petites lignes, quoi.
Mmh. Ouais, c'est à toi de te renseigner un peu quand même. C'est pas du pas à pas où on te guide, etc. Franchement, ce tuto de Dota 2, je trouve qu'il y a du mieux. Ouais. On va dans la bonne direction. Maintenant, il y a un truc que j'aimerais tester, il faudra que je fasse ça plus tard, c'est le tuto fait par les fans aussi.
Mmh. Il est déjà disponible.
A priori, normalement, je crois qu'il est déjà disponible. Il faudrait que je vérifie ça. Je vous dirai ça de toute façon parce que j'ai l'intention de le tester. Parce que pour le coup, je subodore que les fans, tout ce que j'ai décrit ici, peut-être qu'ils l'ont mis aussi dans le tuto. Et s'ils l'ont pas mis dans leur tuto, je vais me poser des questions. Parce que si même les joueurs de Dota 2 se disent que c'est pas important de savoir comment utiliser les raccourcis pour communiquer, ça va poser un souci, quoi.
Ouais. Ok, bon.
Voilà.
Donc, au final, ça se passe bien un petit peu ton retour sur Dota ou tu te fais laver le fion ?
Bah, écoute, c'est équilibré pour le moment. C'est-à-dire que je fous des baffes, je m'en prends. J'ai retrouvé certains vieux réflexes. En plus, bon, c'est bien. Il y a des. Je me rappelle des bons plans, tu sais, pour les vieux comme moi qui n'ont pas de réflexes. Genre, moi, mes personnages préférés, c'est Axe. Enfin, vous voyez son nom, hein, je veux dire, le mec il s'appelle H, bon voilà, c'est quelqu'un de très subtil, oui, évidemment.
Visiblement, il n'utilise pas un marteau.
Et le principe du personnage, si tu veux, c'est que quand tu le tapes, il contre-attaque.
Okay.
Du coup, t'as pas besoin de cliquer pour contre-attaquer, il contre-attaque tout seul.
Okay.
T'as juste à mettre tes points, à bien te placer et à faire les bons moves pour exploiter au mieux ton personnage, quoi.
Okay.
En gros, c'est le personnage qui va servir à fixer, on va dire, les adversaires à un point, quoi. C'est-à-dire que tu vas te téléporter au milieu des adversaires, tu vas faire une espèce de cri qui va les forcer à te taper toi, et du coup, pendant qu'ils te tapent toi, bon déjà, toi, plus ils te tapent, plus tu les tapes, hein, c'est le principe. Et pour peu que t'aies beaucoup de niveau au-dessus des autres, tu les lèves complètement, mais surtout, ça aide tes coéquipiers à encercler tout ce petit monde et à mettre la sauce.
D'accord.
Alors, le problème, c'est que je retrouve mes... Enfin, je suis désolé, mais Dota, c'est un jeu qui rend méchant. Hein.
Bah oui.
Enfin, oui, oui. Dota, mais je dis ça Dota, mais tous les jeux multijoueurs compétitifs, en vrai. Mais c'est-à-dire que il y a des insultes. Même moi, il y a des moments, j'insulte les gens, quoi. Enfin, c'est pour ça que jamais je mettrai le chat vocal parce que ça rend mauvais ces jeux-là. Franchement, oui. T'as LKBD qui partait des Dota alcooliques anonymes, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai le Dota mauvais, moi. Hein. Ah, mais il y a des moments, les gens m'énervent, hein, genre, ouais. Tu sais, t'es en train de gagner et tout, puis à un moment donné, t'as trois connards qui décident d'aller farmer des mobs au lieu de venir défendre, quoi. Et du coup, t'as perdu la partie parce que pendant qu'ils faisaient les cons à farmer, là,
ouais.
Bah les autres, ils ont enfoncé ta défense et ils ont buté ton ancien, et toi, t'es là, tu fais, mais putain, on allait gagner, quoi, bordel, qu'est-ce que vous foutiez, quoi, pourquoi vous êtes allé farmer, bordel, merde.
C'est l'avantage ou le désavantage des jeux compétitifs que tu joues en solo, c'est que pour le coup, tu peux pas rager contre les autres de ton équipe, quoi. Tu rages quoi, soit contre l'adversaire, soit contre toi-même.
Alors, je précise aussi que t'as un mode débutant, donc le mode débutant, là où, tu sais, t'as le petit personnage qui vient te dire « Et au fait, t'as oublié ça, machin », quand tu es dans ce mode-là, et pour le moment, je n'ai pas quitté ce mode de jeu-là, parce que je trouve qu'il est vachement bien, en fait. C'est-à-dire que tout le monde fait sa gueule dans ce mode, donc c'est parfait. Il n'y a pas de gens, tu sais, qui commencent à t'insulter de sikabilat, ce genre d'insultes en russe très agréable, voilà. Mmh. C'est un mode qui est limité, en fait, c'est-à-dire que t'as pas tout le pool de héros.
Ok.
T'as le pool de base, des héros qui sont sortis avec le jeu, en fait. Et c'est vraiment un pool resserré, ça permet, tu sais, de pas te sentir tout de suite, oh, oui. Oh mon dieu, tous ces personnages, qu'est-ce que je vais faire, au secours. Ouais. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Et, Veost dans le chat qui donne un très bon conseil, si vous débutez, prenez Wrath King, qui est un personnage, en fait, qui peut ressusciter. Son ulti, c'est ça, en fait, c'est que quand tu le tues, il ressuscite et il ralentit, voire quand tu mets certaines améliorations, il peut étourdir les ennemis aussi. Et ça c'est bien quand tu débutes parce que du coup ça te donne une seconde chance à chaque fois pour voilà, ça te donne un peu d'espace pour respirer et en plus c'est un personnage qui est sympa aussi pour immobiliser des adversaires et tout. Moi de toute façon d'une manière générale j'aime beaucoup plus jouer support dans Dota que J'aime bien des personnages qui ont un rôle annexe et pas forcément DPS.
Ouais,
parce que DPS, je sais que je suis mauvais, tu vois.
Mm.
Par contre, prendre en embuscade quelqu'un, me téléporter sur lui et l'immobiliser pendant mes potes le tuent, ça je sais faire, tu vois.
Okay. Ok. Bon bah écoute, tu nous en reparleras peut-être plus tard dans tes nouvelles pérégrinations sur ce journal de bord de Dota 2. Très bien. Parlons d'un jeu également qui pourrait ressusciter de ses cendres, mais sous une forme différente, c'est Metroid Prime. Et alors, ce n'est pas du tout quelque chose d'officiel, il s'agit d'un fangame. D'un fangame qui se propose en réalité de porter Metroid Prime en 2D, avec, on va dire, l'esthétique d'un Metroid Fusion. Bon, je vous envoie la petite vidéo sur le stream, et évidemment Thierry mettra dans la page descriptive du podcast la démo, et c'est absolument à tomber par terre, quoi, j'ai envie de te dire.
Ah, c'est sublime, mais surtout ça se joue très bien. Alors, parce que moi j'ai testé la démo pour le coup, oui. J'y ai joué.
Ouais.
Oui, parce alors, que je tiens déjà à vous
que
avertir.
La démo est téléchargeable.
Ouais, c'est ça. Je veux vous avertir. C'est un jeu conçu pour le PC.
Ça a l'air, ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas jouable au contrôleur.
Ouais.
Alors, je sais pas s'ils ont l'intention de l'ajouter plus tard, mais je tiens à vous avertir. Le jeu a été conçu pour être joué au clavier et à la souris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, notamment, pour viser, tu vises avec la souris.
Ouais.
Un peu comme dans Noitu Loved Fu, dont je vous avais parlé il y a très très longtemps sur ce podcast. C'est-à-dire, tu déplaces le personnage avec ZUST, et les tirs, tu les fais avec un curseur que tu déplaces à l'écran, à la souris.
Mmh.
Et ça, vous vous rappelez tout le bien que j'avais dit de Noitu Loved Fu à l'époque, ça marche très bien, c'est très agréable, mais par contre, je sais une chose, c'est que tout le monde n'apprécie pas de jouer au clavier souris, donc je préfère vous prévenir,
ouais.
Ne vous attendez pas à un jeu jouable au contrôleur.
Mmh.
Maintenant, une fois cela dit, écoute, j'ai pris un pied intégral sur cette démo. C'est, enfin, il y a des passages qui sont hallucinants. Enfin, il y a des moments où t'as les décors qui se cassent. Enfin, il y a vraiment, tu sais, on sent qu'ils exploitent le truc pour faire quelque chose à eux. Aussi, une autre précision, ils ont bien dit que certes, ils vont refaire Metroid Prime en 2D, mais c'est pas un Metroid Prime qui a vocation à être absolument fidèle,
oui,
au jeu original.
Mmh.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont pas du tout faire le jeu pareil par endroit. Notamment, par exemple, là tu débutes le jeu, t'as pas la Morph Ball.
Ouais.
Je sais pas si vous vous rappelez de Metroid Prime. Quand tu débutes Metroid Prime, la première séquence du jeu, déjà c'est dans une station spatiale.
Mmh. Ce qui n'est pas le cas ici.
Que tu ne visites pas là dans la démo. Tu commences direct sur la planète. Ils te mettent juste. Ils te font un passage où tu vois Ridley, ils t'en font pas passer par la station spatiale, tu la vois juste dans la cinématique, et ensuite Samus elle file droit sur la planète, et tu commences sans la Morph Ball, alors que dans Metroid Prime, tu as déjà la Morph Ball quand tu débutes.
Ouais. Et tu perds ensuite tous tes trucs, la charge du blaster, etc. Ouais.
Donc ils ont vraiment dans l'idée de faire un Metroid Prime, mais vraiment adapté à la 2D, et ça demande forcément de réadapter plein de choses. Et pour le moment, alors la démo, je vais vous le dire, moi je l'ai fait en 22 minutes en ligne droite, hein, ouais. J'ai pas tout exploré. En 22 minutes en la faisant en ligne droite, j'ai trouvé 20% des objets. Donc c'est bien parce qu'ils te mettent un tableau des scores pour le coup. Mm-hmm. Donc tu vois tout ce que t'as manqué. Et en allant en ligne droite, 22 minutes, j'ai trouvé 20% des objets. Donc a priori, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à fouiller. Notamment, tu peux aller justement récupérer la Morph Ball dans la démo, je vous le dis tout de suite.
Okay.
C'est juste que tu la récupères après le boss de la démo, parce qu'il y a un boss sur la démo. Ah, peut-être qu'il y en a un autre caché, je sais pas, mais pour le moment, il y a un boss qui est très très sympa, parce qu'il a plusieurs phases en plus, qui se jouent pas du tout de la même façon, donc c'est très agréable. Et franchement, moi, pour le moment, je suis plutôt convaincu. Alors après, évidemment, un Metroidvania, vous le savez, ça se juge sur la durée.
Hein. Oui.
Parce que ce qui est important dans un Metroidvania, c'est le level design. Et forcément, un Metroidvania, quand tu débutes le jeu, alors certes, tu vois qu'il y a des possibilités, mais t'as plein de choses qui sont fermées, et généralement, les débuts de Metroidvania, c'est assez linéaire pour s'ouvrir ensuite.
Mm-hmm.
Hein. Et évidemment, là, dans une démo, ça va être difficile de rendre la complexité du level design. Donc, il faudra attendre que le jeu soit complet pour voir ce que ça donne. en espérant bien évidemment que le projet arrive en bout, au bout, parce que bon, alors je vais quand même rassurer les plus pessimistes. Je rappelle que AM2R, qui était donc Another Metroid Remake, qui est le remake de Metroid 2, Metroid je crois 2, sur Game Boy, qui avait été retiré. Enfin, il avait, l'auteur avait reçu un DMCA, une lettre de Nintendo en fait, de moment qu'il arrête le développement du projet. AM2R, Nintendo a attendu que le projet soit terminé et qu'il soit disponible pour balancer la sauce.
Oui.
AM2R avait déjà sorti plusieurs démos auparavant, deux je crois notamment. Ces démos, Nintendo n'a pas réagi à l'époque quand ils ont sorti. Donc j'ai bon espoir que ça soit la même chose ici, c'est-à-dire que honnêtement, s'ils attendent que Metroid Prime 2D soit terminé pour balancer les AOK, moi ça me va très bien. Parce que une fois que le jeu il est sur internet, on s'en fout que Nintendo l'interdise, hein. Il a beau être interdit, il est là, hein. Donc c'est comme Super Mario 64 PC, Nintendo a beau interdire le projet, il est toujours là, hein. Donc bon, s'ils font ça pour tous les jeux de tous les fan games, moi ça me va très bien. Ouais. Maintenant la question que je me pose c'est est-ce que pour AM2R c'était pas juste qu'ils avaient pas vu le projet?
Possible.
Ou peut-être qu'ils ont changé d'avis depuis, hein, parce que peut-être que en voyant que AM2R est arrivé juste au bout, jusqu'au bout, ils se sont dit bon, la prochaine fois on va peut-être y aller un peu plus fort dès le début, quoi, pour être tranquille. Peut-être que c'est ça. Maintenant, moi, on va rester optimiste, hein, et espérer qu'ils arrivent au bout. Et puis, faut pas oublier un dernier facteur quand même, c'est que ils arrivent au bout de leur projet, hein. Bon, ça fait quand même 14 ans qu'ils sont dessus. A priori, je pense que bon, si ça fait 14 ans qu'ils sont dessus, ils vont pas lâcher tout de suite. Ouais. Enfin, je pense que s'ils étaient pas motivés, ça ferait longtemps qu'ils auraient arrêté, voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous incite à tester la démo. Le jeu est magnifique. La bande son est une sublime.
C'est superbe.
Et ça se contrôle super bien. C'est super agréable à jouer. Franchement, allez-y quoi.
Bah, c'est super. Moi, ça me parle énormément. C'est vrai que le seul truc qui me déchauffe et je l'avais vu en voyant la vidéo, c'est que ça se joue clavier souris. Et moi, j'aime bien même sur PC jouer jouer quand c'est un jeu qui l'appelle. Jouer avec un contrôleur parce que c'est plus simple pour moi et pour le coup c'est vrai que ça me viendrait pas forcément naturellement de jouer à un Metroidvania clavier souris, mais bon, après le projet je pense en vaut la chandelle, mais voilà, en tout cas très très intéressé de voir à quoi ça ressemble quand ils auront finalisé le projet, mais ça encore une fois c'est un truc qu'il faut surveiller, il faut vraiment surveiller ce projet là quoi. Et évidemment, on vous en reparlera quand ça sera finalisé, s'il y a lieu. Ok, parlons maintenant passons au coin des modes. J'ai envie de te dire, puisque de temps en temps, on a un petit coin des modes, puisque les modeurs ont du talent. On le répète régulièrement. Et parfois, quand il y a des jeux qui sortent un petit peu cassés, parfois, les modeurs réussissent à nous les réparer. Et cette semaine, on va vous parler de Kingdom Hearts 2, puisque, on le rappelle, il y a toute une collection de Kingdom Hearts qui sont arrivés sur PC à la fin du mois de mars via l'Epic Game Store. Et il se trouve que il y a des petits problèmes de framerate qu'un modeur a décidé de régler unilatéralement. Et visiblement, ça a bien marché.
En fait, il jouait au jeu et puis... Il a vu les chutes de framerate qui étaient visiblement brusques. Il s'est dit non, ça va pas être possible. Et du coup, il y a des gens, tu vois, quand ils ont des problèmes de framerate et que c'est pas possible, ils revendent le jeu ou ils se font rembourser, voilà.
Ouais.
Bah lui, non, il a réparé le problème. Tout simplement. Donc, il a sorti un mode pour corriger le souci. Alors, ce qui m'étonne, c'est que le gars dit clairement que pour lui, ce qui se passe dans le jeu, c'est parfaitement intentionnel. Enfin, il voit pas comment ça peut être un bug, en fait.
C'est trop chelou.
Donc, bon, j'ai envie de dire hashtag le Japon, enfin, surtout hashtag Square Enix, quoi. Je vous conseille de télécharger le mode, parce que bon, c'est pas dans les habitudes de Square Enix de corriger les problèmes. Donc, bon, malheureusement, il faut en passer par les modeurs, des fois, pour corriger quelques petits soucis. Voilà.
Quel plaisir. Donc ça, c'est visiblement, c'est ça concerne que Kingdom Hearts 2. En tout cas, lui, il a fixe uniquement Kingdom Hearts 2. Mais sachez-le, c'est un problème qui existe et qu'il y a désormais un fixe non officiel, mais un fixe tout de même. Voilà. Alors, passons à la suite avec un autre jeu qui s'est fait modder récemment. C'est GTA 4. Alors, GTA 4 sur PC. Vous ne le savez peut-être pas, mais il était dépourvu de ses fonctionnalités multijoueurs. Et un mode lui rajoute justement cette capacité-là, ce qui va vous permettre du coup de jouer à GTA 4 en multi, si c'est ce que vous souhaitez.
On précise qu'à l'époque où il est sorti, au tout début, il l'avait.
D'accord.
Des fonctionnalités multijoueurs. C'est juste que Rockstar, ces putains de génies, ont décidé à l'époque d'utiliser Game for Windows Live.
C'est vrai.
Et vous le savez, Game for Windows Live, outre le fait que c'était de la merde, Microsoft a arrêté les frais. Et donc, du coup, l'excuse que Rockstar a donnée lorsqu'ils ont ressorti le jeu, c'est, vous comprenez, Game for Windows Live n'existe plus, donc a plus mode multijoueur, tu vois. Sauf que, visuellement, c'était pas sorcier, vu que des fans arrivent à le faire. Enfin, en tout cas, ça demande un minimum d'investissement, je n'en doute pas. Hein. De toute façon, tout ce qui touche le multijoueur, ça demande un minimum de moyens.
Oui.
Mais bon, si des fans arrivent à le faire dans leur garage, je pense que Rockstar peut y arriver. Voilà.
Oui, non, mais comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est pas la faisabilité du projet qui est mise en doute, c'est la volonté de faire la chose. On l'a vu récemment, encore une fois, chez Rockstar, hein, là, sauf que là, cette fois, ça concernait GTA V, et GTA Online particulièrement. Bon, il se trouve que quand les modeurs, en général, se mettent à décider de faire quelque chose, souvent ils y arrivent, et parfois ça fait un petit peu bouger. Donc, voilà. GTA 4, l'expérience multijoueur, si jamais elle vous manquait, il se trouve qu'elle est disponible via un mode sur PC. Voilà.
Alors juste, dans le chat, les réactions quand même, parce que là, tout de suite, quand tu dis Game for Windows Live, t'as réactions post-trauma.
Évidemment.
qui remonte. Alors, Game for Windows Live, que de mauvais souvenirs du Moody et KBD, et surtout qui tient, la surprise du chef. À cause de Game for Windows Live, j'avais pas pu jouer à GTA 4 pendant un an, parce que ce logiciel de cul considérait mon code faux.
Mais putain.
Du coup, j'ai dû y jouer en version pirate.
Oh là là, mais quel enfer. Oh là là.
Putain, c'est beau.
Allez, Game for Windows Live, c'est compliqué, hein. C'est compliqué.
Mais honnêtement, ils ont pas beaucoup progressé depuis, hein, parce que certes, bon, tu me diras, l'application Xbox, elle marche, hein. Mais quand même, niveau ergonomie, c'est vraiment de la chie. Et surtout, t'as des trucs de base, genre le fait, tu sais, que les logiciels, les dossiers des jeux soient complètement verrouillés. Qu'il faille que t'ailles chercher les permissions dans Windows pour déverrouiller les trucs. Putain, mais allez vous faire foutre Microsoft, quoi. permettez-nous d'aller rajouter nos mods et qu'on fasse ce qu'on veut avec les fichiers, quoi. Enfin, mais... sérieux, quoi.
Oui, tout n'est pas rose, hein, non plus dans le Xbox Game Pass, hein. C'est pas parce qu'on en parle que tout est magnifique, hein. Alors, tout est magnifique, pas vraiment au pays de Japan Studio en ce moment. On vous en avait déjà parlé. Mais on en reparle puisque là ça y est, hein, le clou dans le cercueil a été donné. Japan Studio donc qui a été plus ou moins dissous, réorienté, enfin voilà, il y a pas mal de monde qui a quitté.
Je pense que bientôt ils vont le rappeler, l'appeler Team Asobi, hein.
Oui, c'est studio, ça. Mais... C'est exactement l'objectif en fait. On en a parlé déjà, mais en gros Sony Interactive Entertainment a décidé que à l'intérieur de Japan Studio, il fallait faire en sorte que les budgets baissent et du coup a essayé de réorienter un petit peu sa masse salariale. Il y a un certain nombre de gens qui sont simplement partis et c'est un petit peu la news de la semaine puisqu'il y a beaucoup de gens assez haut gradés à l'intérieur du studio. On parle, je crois que c'est le directeur de Bloodborne. On parle de gens qui ont beaucoup travaillé sur Gravity Rush également.
On a par exemple le lead character designer et animateur de Gravity Rush. Donc l'illustration que vous avez vue en annonce de podcast de cette semaine, c'est lui.
Ouais.
Voilà.
le directeur créatif de Demon's Souls Remaster sur PS5 est également parti. Et tous les gens qui restent, en fait, ils vont être graduellement intégrés à la team Asobi, donc qui est finalement un des seuls vestiges de Japan Studio. Mmh. Puisqu'on le rappelle, hein, le Japan Studio, c'est plusieurs entités à l'intérieur du Japan Studio, dont la team Asobi, qui s'occupe notamment de tout ce qui est Astro, et Astro's Playroom, etc.
Alors, mention spéciale pour le tweet de Gavin Moore, oui. Qui est donc le directeur créatif de Demon's Souls. Je sais pas si vous connaissez ce fabuleux mème avec un petit personnage qui est au milieu d'une maison en flammes et qui dit « This is fine ». Bah, le mec, quand il a fait un tweet pour saluer le départ de ses collègues, soit dit en passant, il s'est barré une semaine après. Hein, donc voilà. quand il a fait un tweet pour saluer le départ de ses collègues sur son téléphone, bah, il y avait ce petit personnage qui... dans son tweet, et là je dois saluer le côté couillu du tweet, parce que bon, on sait que bon, en général quand tu postes ça, c'est que tu penses que bon, c'est un peu géré n'importe comment ce qui se passe chez Japan Studio, et qu'un directeur créatif ait des balls de faire ça sur Twitter, moi j'ai envie de saluer l'initiative, quoi.
Et puis on notera aussi le caractère assez sibyllin des annonces de départ de certains Japonais qui disent simplement aujourd'hui j'ai quitté le studio Japan Studio. C'est très, tu vois, c'est vraiment genre très factuel, quoi. Y a rien qui dépasse, mais tu sens quand même que bon, ça s'est un petit peu fait dans la douleur tout ça, et que bah forcément, c'est tous ces personnages qui ont marqué l'histoire de Japan Studio, qui ont notamment pour certains donné 20 ans de leur carrière dans le développement de jeux vidéo, c'est une trajectoire de fin de carrière qui paraît un petit peu étrange. Certains d'entre eux ont déjà créé de nouveaux studios ou ont déjà annoncé qu'ils allaient continuer à produire des jeux vidéo, et en tout cas on leur souhaite. Mais c'est vrai que tout ça est un petit peu bon, c'est un petit peu décevant, mais bon, c'est très étonnant de la part de Sony, en fait, surtout de se dire que bah on peut se passer de la force créative de tous ces gens, quoi.
Bah, alors, je voulais réagir à un truc aussi, c'est pour ça que j'ai fait cette news cette semaine. C'est tous ces gens sur Internet qui te disent, bon, ouais, franchement, Sony, ils ont raison, enfin, vous voyez, Japan Studio, c'est un gouffre financier, il faut bien qu'ils se réorganisent, qu'ils fassent des économies, etc. Qu'est-ce que j'ai que je vous dise, moi ça me désole quand les joueurs relaient comme ça la communication d'un éditeur, parce que c'est pas dans notre intérêt à nous, en fait, ce qui se passe, quoi.
Bah clairement.
Que Sony, que la décision ait du sens d'un point de vue financier, je le conteste pas, hein. Sûrement. Encore que je doute très franchement que Japan Studio soit un gouffre financier tel qu'il ait laissé pendant 20 ans continuer tout seul, tu vois. Enfin,
ouais, c'est clair.
C'est carrément. Alors peut-être que le studio avait besoin d'être organisé, je dis pas le contraire, mais de là à tout éjecter comme ça, moi ça me paraît triste. Pourquoi ? Parce que vous le savez, régulièrement je dis dans ce podcast que j'en ai marre de cette industrie où les gros éditeurs n'en ont que pour les triple A, et qu'à aucun moment ils se disent, ouais, ce serait bien de financer des petits studios aussi, de tenter des trucs sur des plus petits projets. Alors il y a, parce que même les éditeurs qui font ça, genre Electronic Arts, en général, c'est de la vitrine. Tu vois, ils le font pas. C'est pas quelque chose pas d'industrialisé, mais c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi, entre guillemets, chez Electronic Arts. La majorité, l'immense majorité des projets, c'est des triple A, quoi. Et ce que je trouvais bien chez Sony, et notamment avec Japan Studio, bah, c'est que c'était, du fait que c'était un constructeur, l'une des rares boîtes qui se permettait ce luxe. Enfin, d'ailleurs, ça devrait pas être un luxe pour moi, parce que dans le cinéma, ils le font. Je vois pas pourquoi le jeu vidéo, on le ferait pas. Hein. C'est une des rares boîtes qui se permettait d'avoir des équipes au Japon qui étaient éclatées un peu partout et qui sortaient de temps en temps des projets, mais complètement barrés. Je veux dire, Tokyo Jungle, enfin, voilà. What the fuck, enfin, hashtag le Japon, quoi. C'était la seule boîte, en tout cas, moi c'est comme ça que je le perçois, qui se permettait dans ce secteur d'avoir une entité qui sort des trucs un peu barrés de temps en temps, tu vois. Et qui tente des trucs.
Et puis le fait aussi d'avoir à l'intérieur de tes studios first party des différentiels de voix, des différentiels de propositions, c'est hyper important. Ouais. Et aussi le fait dans une période où l'on vit dans la course au contenu d'autant plus exclusif, c'est un choix qui est extrêmement surprenant de la part de Sony de se dire au final toutes ces productions là, alors certes peut-être qu'elles prennent du temps, certes peut-être qu'elles sont pas occidentalisées, mais peut-être que aussi ça permet à ta marque de renvoyer quelque chose d'un peu différent par rapport à ton concurrent direct, quoi. Donc c'est ouais, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors effectivement, je suis
alors hyper... Kilchia qui dit dans le chat que oui, malheureusement c'est des jeux qu'ils ont vendu très peu, mais quand tu sors des petits projets comme ça, tu le sais. Enfin, tu vas pas me dire que Sony, ils sont surpris du fait que Gravity Rush ne se vende pas un million, c'est pas triple A. Voilà.
Oui.
Et puis surtout, moi, la question que je pose, c'est parce que il y a pas beaucoup de gens qui la posent cette question. C'est certes, les jeux se vendaient très peu, mais est-ce que les studios étaient à perte? C'est ça la question que je pose. Moi, je veux dire, si les studios sont pas à perte, alors je sais très bien que l'objectif de la majorité des boîtes de jeux vidéo, c'est pas juste de faire du profit, c'est de faire le profit maximum. Et c'est pour ça que tu n'as que des triple A. Mais à un moment donné, si le studio restait rentable et qu'il rapportait certes pas énormément, bah est-ce que ça vaut pas le coup de conserver cette singularité qui fait aussi l'image de Sony, quoi. Excuse-moi mon run, mais c'est...
Oui, non, mais je suis assez d'accord avec toi. En fait, le truc, probablement que le studio avait besoin d'être réorganisé. Mais le fait de tout fusionner à l'intérieur de Team Asobi, ça ne me... Pour moi, c'est peut-être la phase, le dernier étage de la fusée, quoi. Peut-être qu'il y avait d'autres trucs à tester avant, et de se dire que peut-être que tous ces gens, ils auraient peut-être dû travailler sur un projet, en plus de la Team Asobi, plutôt que de faire plein de petits trucs les uns à côté des autres. Mais de toute manière, je trouve que c'est aussi un aveu d'échec de la part de Sony de se dire que finalement le Japan Studio, on ne sait pas quoi en faire. Du coup, tout le monde dégage. Ça, quand même, en termes de leadership, en termes de management, c'est quand même assez assez clair comme signal. Hein. C'est-à-dire que
comme dit Kiltia, c'est du management à l'américaine.
C'est ça. C'est assez triste en fait de te dire que il y a aussi le fait que c'est une marque japonaise qui décide que son studio phare, son studio numéro 1, de japonais, hein, bien sûr, ne vaut plus le coup. C'est quand même assez fort comme choix, quoi.
Après, est-ce que Sony est encore japonais maintenant qu'ils ont leur quartier généraux aux États-Unis?
Oui, vu tout ce qu'on
sur
dont
le papier,
on parle
c'est une boîte
suite,
japonaise,
oui.
Tu vois, c'est un peu comme Ubisoft, oui, c'est une boîte française,
ouais. Ouais, c'est clair.
Ils ont la majorité de leurs effectifs au Canada, quoi. Mais
tout à fait
voilà, quoi.
Ouais, non mais c'est clair. Non mais ça ne fait que confirmer cette tendance-là, en tout cas, ça c'est certain. Ok. Voilà, donc ça c'était pour Japan Studio, Sony Japan. C'est assez triste, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On va continuer à parler de Sony, puisque on le sait depuis quelques jours, le PlayStation Store va fermer ses portes. Alors attention. Pas sur PS4, pas sur PS4 et sur PS5, mais sur PS3, PSP, PS Vita.
Alors, je sais que Kiltia va réagir dans le chat. A priori, ça fait un moment que c'est fermé sur PSP. C'est juste que tu peux les acheter par ailleurs sur Internet, je crois.
C'est ça.
Mais ça aussi, ça va fermer pour le coup.
Ouais. En gros, tout ça, ça sera plus disponible. Tout ce qui est dématérialisé sur ces consoles-là, donc des consoles d'ancienne génération, hein, pour Sony, tout ça sera plus disponible, vous pourrez plus accéder au PlayStation Store, et surtout vous ne pourrez plus acheter de jeux sur cette version du PlayStation Store. Notez que si vous aviez encore de l'argent disponible sur votre compte, vous ne pourrez plus le dépenser que pour acheter des jeux ou des DLC sur PS4 et PS5. En revanche, les jeux que vous avez déjà achetés dématérialisés, vous pourrez toujours les retélécharger après la date butoir. Et la date butoir, il me semble qu'elle est calée au début juillet, et ensuite fermeture définitive, je crois que c'est fin août 2021.
Mmh. Voilà. Bon. Et alors, bon, déjà, bon, on va pas vous faire le couplet sur la préservation du jeu vidéo, tout ça. On sait que les éditeurs s'en battent les couilles, enfin, encore la preuve aujourd'hui. Bon, on n'arrivera pas à me faire croire quand même que ça représentait un coup d'œil pour Sony, que
c'est clair.
C'était impossible de faire quelque chose, surtout que, comme je l'ai déjà entendu ailleurs, en fait, ils attendent quoi chez Sony pour fusionner tout leur PlayStation Store? Parce que c'est ça la solution, en fait. C'est faire en sorte de fusionner les serveurs des anciennes versions du PlayStation Store avec la nouvelle pour faire en sorte qu'ils soient accessibles, en fait. Alors ça, ça demande du travail. Et certes, il aurait fallu qu'ils s'y prennent il y a quelques années. Mais ils ont foutu quoi, là, depuis tout ce temps? Parce que je rappelle que pendant ce temps, Microsoft n'a pas chômé, hein.
Ouais.
De son côté. Pour rendre ses jeux rétro-compatibles et tout.
Oui, c'est clair. Microsoft n'a pas chômé. Mais encore une fois, on le sait depuis longtemps, la rétro-compatibilité pour Sony, c'est peanuts. Et c'est devenu un argument marketing qu'a repris Microsoft, et c'est pour ça que sur PS5 on s'y met, mais vraiment petit pas par petit pas. Mais en réalité, et la preuve avec cette news, c'est que la rétrocompatibilité pour Sony, ça ne veut rien dire.
Et aussi, alors, une chose importante que j'ai pas mis dans le conducteur et je viens de m'en souvenir, je vous mettrai le lien dans le chat de la source, ça vient du site The Gamer. Et ça, c'est le plus grave, à mon sens, c'est que non seulement, bon, on te sort ça du jour au lendemain, les serveurs sont en PLS et les gens, du coup, arrivent pas à télécharger leur jeu, mais surtout, ils n'ont pas prévenu les développeurs.
Ouais. Oui. Alors, j'ai oublié le nom de son jeu, mais...
Attention, ouais. Hein, c'est... Quand je dis les développeurs, apparemment, il y a... Les gros studios étaient au courant.
Ouais.
Mais on est d'accord que ceux qui développent des jeux encore aujourd'hui sur Vita, etc., c'est des petits studios.
Ben oui.
Et ces studios-là n'ont pas du tout été mis au courant, alors quand même qu'il y a un processus de certification de la part de Sony. Donc on peut pas dire oui, Sony n'était pas au courant que ces gens développaient des jeux, c'est faux. Enfin, Sony sait parfaitement tout ce qui sort sur sa machine. Hein. Donc ils auraient quand même pu faire l'effort d'aller prévenir les studios que « Ah, en fait, les mecs... dans quelques mois, on va fermer le PlayStation Store. Ça serait bien de prévoir, quoi, parce que bon, on sait que le développement c'est un cycle long, etc. Donc il faudrait prendre vos dispositions. Non, du jour au lendemain, on te dit, allez vous faire foutre. Nous, on s'en fout de votre gueule, voilà, quoi.
Ouais, il y a un certain nombre de petits studios qui avaient justement prévu des portages de leurs jeux sur PlayStation Vita et qui n'avaient pas été prévenus. Et qui, pour le coup, en fait, se rendent compte que leur jeu va être disponible pendant 100 jours, grand max, sur le store de la PS Vita. C'est quand même assez triste de maintenir ce niveau de communication avec les gens qui, pour le coup, continuent à faire vivre ta machine. Enfin, c'est assez abusé. Ce qui est rigolo, évidemment, c'est que cette annonce, elle a évidemment provoqué un espèce d'afflux de gens sur le PlayStation Store de ces trois machines, les gens notamment qui voulaient posséder certains jeux avant que ce store ne vienne à fermer. Donc tout ça, ça a fait une masse que notamment sur PS3 on n'a pas réussi à gérer chez Sony, et donc les serveurs sont évidemment en PLS. Mais ça c'est fallait le prévoir. Mais du coup la problématique, c'est que est-ce que les gens qui veulent du coup acheter certains trucs qui manquent à leur collection sur ces trois consoles là en dématérialisé pourront le faire d'ici le 2 juillet? Donc LKBD qui nous rappelle les dates exactes: à partir du 2 juillet 2021 pour PS3 et PSP, le PS Store c'est fini, et à partir du 27 août sur PlayStation Vita. Donc voilà, tout ça c'est... Puis il y a aussi le côté incertain du est-ce que les jeux que j'ai achetés en démat, je vais pouvoir aller les récupérer? Visiblement oui, la problématique c'est comment. Si l'application PlayStation Store n'existe plus, comment qu'est-ce que Sony va mettre en place?
Oui, et une dernière chose par rapport aux développeurs, parce que peut-être qu'il y a des gens qui se diraient « Bon, oui, bon, ça va, hein. Ils comptaient pas forcément sur les ventes de la Vita pour renflouer les caisses. » Oui, peut-être, mais c'est un coup.
Bah oui.
C'est un coup, la Vita. Et aussi, ce qu'on oublie de dire, c'est que il y a des développeurs sur Vita qui font leur beurre dessus, parce qu'ils sont parmi les seuls à développer dessus. justement, et qu'ils comptaient sur ces ventes-là aussi pour amortir leurs frais, quoi. Et quand tu préviens pas ces gens-là à l'avance, bah ça peut donner des catastrophes pour certaines boîtes.
Ah bah c'est sûr.
Et c'est grave. Enfin, t'as des CEO qui peuvent avoir un gros coût financier. Je sais plus où j'avais dans l'article le chiffre exact, mais c'était une portion non négligeable des ventes qu'ils espéraient faire sur Vita, quoi.
Ouais.
En se basant sur des données qu'ils avaient déjà eues, sur des jeux qu'ils avaient vendus avant, etc. Donc, quand même, je trouve que tout ça est fait avec un peu de légèreté de je m'en foutisme.
Oui, voilà. Totalement.
Et, et puis, dans tous les cas, bon, vous connaissez notre position sur la conservation du jeu vidéo. Écoute, si Sony veut plus qu'on récupère nos jeux, c'est pas grave, on les piratera, puis c'est tout, quoi.
Oui, oui, bah, mettront en place des canaux subsidiaires, hein, bien sûr.
Bah oui.
Et Kiltia qui nous dit « Pauvre Vita, cette console sacrifiée alors qu'elle avait le potentiel d'être la Switch avant l'heure. » Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Kiltia. Le point sur lequel j'aimerais insister, c'est le « avant l'heure ». Il y a toute une question de timing avec le succès d'une console et d'un hardware, et qui, pour le coup, peut-être que la Vita n'est pas arrivée au bon moment, alors que la Switch, oui. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que, malheureusement, la Vita, qui est une très belle console, hein, qui pour le coup avait beaucoup de potentiel, mais qui aussi, on va le dire, n'a pas non plus été très très soutenu par rapport à son fabricant.
Bah, de toute façon, l'histoire est jonchée de consoles qui sont sorties avant l'heure. Hein. Enfin, regarde la Dreamcast, le mode en ligne.
Tout à fait.
C'était le futur, oui, c'était le futur.
Voilà, sauf que...
C'était pas le présent encore.
Exactement, exactement. Ok, parlons de Outriders. Alors, Outriders, pour le coup, je sais pas du tout ce que c'est, mais je sais qu'il y a pas mal de monde qui en parle.
Alors, pour faire simple, c'est un looter-shooter, mon cher Mordred.
D'accord, bon.
C'est un looter-shooter qui ne réinvente absolument pas la roue, qui est premier des ventes de Steam, pour le coup. Sauf que Outriders a des problèmes. Bon, déjà, il a des problèmes de serveur, hein. Mais c'est d'autant plus problématique, si tu veux, mon cher Moren, que c'est un looter shooter où tu peux jouer en solo, mais il faut une connexion obligatoire.
Ah, on
aime.
Eh
oui, parce qu'ils ont suivi le modèle Diablo 3, parce que c'est sûr que une référence absolue, Diablo 3. donc, du coup, ils ont décidé que quand tu voulais jouer à ce jeu en solo, bah, il fallait une connexion en ligne. Bon, si un jour, c'est ballot, parce que l'avantage quand t'as un mode solo offline, c'est que quand les serveurs sont en PLS, tu peux jouer.
A priori.
Hors ligne. Oui. Hein? Ouais, voilà. Et du coup, vu que les serveurs étaient en PLS là au lancement, ça aurait été bien que les gens qui voulaient jouer juste seuls à leur looter shooter, eh ben ils puissent y jouer sans se taper des problèmes de serveur. Ça aurait été cool. Bon, déjà ça c'est le premier point. Et puis surtout, moi j'aime bien les jeux qui respectent mon temps. Et j'avoue que il y a même des jeux que j'adore, par exemple Dark Souls. Dark Souls a un gros défaut que Outriders a aussi, c'est qu'il n'y a pas de menu pause.
Ouais.
Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là? C'est que les gens dans ce jeu ne peuvent pas foutre pause, sauf les petits filous qui ont une carte Nvidia et qui utilisent le mode photo Nvidia pour forcer le jeu à se mettre en pause, en fait. Voilà.
C'est un truc qui pour le coup existait dans Demon's Souls PS5. Donc moi pour le coup j'ai encore jamais fait de Souls-like dans lequel tu ne peux pas faire pause, puisque j'avais simplement à brancher le mode photo de la PlayStation 5 pour mettre pause en fait. Donc là-dessus c'était pas gênant. Mais oui, effectivement, je m'imagine bien à quel point ça peut être compliqué dans un jeu comme ça de ne pas pouvoir faire pause.
Bah oui, surtout que c'est des jeux en plus pour le coup un looter-shooter où t'as quand même plus des vagues d'ennemis, etc. Bah oui. S'il faut que t'attendes d'avoir nettoyé une zone pour avoir l'insigne honneur de pouvoir mettre pause, bon, hein. Voilà. Enfin, je trouve que, d'une manière générale, c'est quand même pas très respectueux du temps des joueurs. Et s'il vous plaît, pensez à inclure ce genre de choses. Surtout que bon, déjà, je vais pas revenir sur le mode en ligne obligatoire, mais des jeux en ligne qui permettent de faire pause avec l'approbation des joueurs, ça existe, hein.
Oui.
Voilà. Ça existe. Donc bon.
Ok, bon, bah c'était Outriders, donc on espère qu'ils changeront un petit peu leur fusil d'épaule, mais bon, si c'est intégré jusque dans leur design, ça risque d'être compliqué. Parlons de Super Mario 3D All-Stars, il ne vous a pas échappé qu'on nous sommes début avril, et que donc Super Mario 3D All-Stars n'existe plus. Au moins, ou du moins sur le store en ligne de la Nintendo Switch, mais aussi en magasin, il ne vous est plus...
Depuis le 1er avril, je crois, ça ne s'invente pas.
Exactement,
hein.
Ouais, depuis le 30 mars, au soir, ça y est, c'est fini. Donc on le rappelle, hein, c'est cette collection du triptyque Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, qui est sorti en septembre dernier sur Nintendo Switch. Un prix de 40 ou 50 euros, un truc comme ça. Et on le savait dès le départ, Nintendo avait prévu d'en vendre un paquet, mais très très vite. Et comment ils ont fait? Ben, ils ont dit, tout simplement, à partir du 30 mars, vous pourrez plus l'acheter. Ah. Eh bien, écoutez.
Et ça a marché, hein, plus de 8 millions d'exemplaires, a priori. Bah, donc, oui. Voilà, ça marchait.
Bon. Eh bien, il se trouve évidemment que, à qui profite le crime? Eh bien, aux scalpers. Les scalpers, vous savez, ce sont ces gens qui investissent pour acheter plein de choses, que ça soit des consoles ou des jeux assez rares ou qui vont devenir rares très vite, qui en achètent beaucoup et qui, derrière, vous les vendent ensuite sur eBay, sur Le Bon Coin, à des prix, évidemment, extrêmement élevé, et ça n'a pas loupé.
J'allais dire défiant toute concurrence.
Oui, ça n'a pas loupé. Évidemment, tout ça, on a connu avec les stocks de PS5, où on a même des robots qui viennent acheter des PS5 à la place d'humains pour les revendre derrière 800 balles. Et ben voilà, on a vu sur eBay, dès ce week-end, des Super Mario 3D All-Star vendus $1000. Oui, oui, $1000.
Je sais pas s'ils ont réussi à les vendre, hein, parce que... derrière, tu sais pas s'il y a des gens qui font des fausses enchères, tu sais, pour faire genre.
Bien sûr.
Il y a une attente, etc. Parce que quand même, je précise une chose, je suis quand même allé enquêter chez les revendeurs pour voir à combien se revendait un Super Mario 3D All-Star d'occasion. Ça se vend à 40 balles. Hein. Donc, je sais pas. Après, c'est vrai qu'ils sont pas sous blister. Le fameux blister, c'est vrai que le morceau de plastique là, c'est très important. ça vaudrait presque le coup, tu sais, d'acheter un truc pour mettre un blister sur des jeux,
oui.
Pour faire croire qu'ils sont encore neufs et les vendre une fortune.
Mais il y a des gens qui font ça. Il hein. y a tous des délires, tu sais, sur attention, ça c'est reblisterisé, hein, c'est pas vraiment blisterisé. C'est d'ailleurs pour ça que sur certains blisters, tu as la marque du fabricant. C'est le cas notamment sur les jeux Nintendo Switch fabriqués par Nintendo d'ailleurs. bref, donc tout ça pour dire que évidemment à qui profite le crime comme d'habitude, ça apporte un nom en français mais j'ai oublié.
Moi j'appelle ça les spéculateurs.
Ah bah c'est
simplement.
Ça. C'est le mot que je cherchais. Merci Tian. Et donc bon, bah écoutez, voilà. Hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Mais c'était évident. On imagine bien que ces jeux réapparaîtront à un moment ou à un autre sur le Nintendo Switch Online. À des tarifs plus élevés, mais à l'individuel. Moi je m'attends à ça personnellement, hein, que ces jeux arrivent sur l'émulateur Switch, mais en solo et à 15 balles chacun, quoi.
Oui, voilà, jouez-y sur émulateur. De toute façon, déjà, franchement, Super Mario 3D All-Star de base, je comprends pas l'intérêt du truc parce que franchement, l'intérêt du truc c'est la Switch. Voilà, c'est comme d'habitude. Ben oui. Jouer à Super Mario 64 dans ta main, d'accord, ok, ça, très bien. Sinon, si vous voulez une meilleure expérience, vous y jouez sur émulateur, hein, ça marche très bien aussi. Voilà.
C'est ça.
Et LKBD qui résume très bien la situation. Moi, j'appelle ça des connards, c'est vrai, ça marche aussi.
Et Veos t'appelle les acheteurs des pigeons. Eh oui, c'est pas faux. C'est pas faux, mais il en faut, hein. Il en faut. Bon, en parlant de pigeons. non, c'est pas vraiment ça. En parlant de connards surtout, on va vous reparler un petit peu de lootbox puisqu'on vous en parle régulièrement, mais vous savez que on a des marottes dans le podcast et parmi ces marottes, il y a les lootbox. Les lootbox qui se trouvent sont un sujet assez, sur lequel les Britanniques s'intéressent énormément, notamment les chercheurs. Il se trouve que une nouvelle étude a été publiée ces derniers jours en Grande-Bretagne. Elle a été commanditée par une association qui
c'est une association
qui s'appelle Gamble Aware, donc qui justement est une association qui essaie de gérer justement les problématiques de jeux d'argent, de jeux de chance et les ravages que ça peut faire dans les vies de certains. Elle a du coup demandé à certains chercheurs de l'université de Plymouth et de Wolverhampton en Grande-Bretagne de s'intéresser à la question des loot box, puisque vous le savez, la Chambre des Lords au Royaume-Uni s'intéresse notamment à la question des loot box en relation avec une future loi sur les jeux d'argent. Donc c'est vraiment le moment de parler de ça. Et cette nouvelle étude a montré pas mal de choses très très intéressantes au sujet des lootbox. Thierry, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le récap?
Alors, le récap, je vous préviens, il y a certains chiffres là-dedans, va falloir s'accrocher hein, parce que ça fait peur. Notamment la deuxième ligne là, elle me fait flipper, mais grave quoi. il faut savoir que selon cette étude, alors c'est au Royaume-Uni on précise, 93% des enfants ont déjà joué à un jeu vidéo.
Ok.
Sur ces 93%, 40% ont déjà eu affaire à des loot box.
Pouah.
Déjà ça c'est le premier problème, parce que pourquoi c'est un problème? Sachant que, bon, vous savez qu'ici, nous, on est convaincus, hein. Je veux dire, quand t'as des gens qui étaient addicts aux jeux d'argent, qui te disent qu'ils peuvent plus jouer à FIFA parce qu'ils ont l'impression d'avoir des syndromes de manque comme quand ils avaient quand ils jouaient aux jeux d'argent, bon, a priori, moi, j'ai pas besoin d'une étude, si tu veux, pour avoir un avis qui s'est forgé sur la question, quoi. Mais bon, ça veut dire qu'il y a quand même 40% de ces mômes-là qui ont été mises en contact avec des problématiques de jeux d'argent, quand même. Et potentiellement, surtout que, en plus, c'est un âge, bon, où tu sais, les connexions, elles se font dans le cerveau, etc. Tu te dis, est-ce que, quand même, tout ça, c'est très raisonnable, hein? Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui me fait vachement flipper. On parle des sous, là. 5% des joueurs génèrent la moitié des revenus des lootbox. Je répète, 5% des joueurs qui ont acheté des lootbox génèrent la moitié des revenus.
C'est ouf.
Je suis sûr qu'ils sont tous millionnaires, bien évidemment.
C'est ce qu'on appelle, vous savez, ces fameuses baleines, entre guillemets. Et là, pour le coup, c'est vrai que mettre un chiffre là-dessus, c'est très intéressant pour le coup.
Bah oui, parce qu'on sait qu'elles existent, les baleines, on sait qu'elles sont peu, mais avoir un chiffre aussi précis, tu vois, 5% qui génère la moitié, tu dis... Ah ouais, surtout quand tu vois les montants des revenus, que ce soit sur Genshin Impact, que ce soit sur FIFA Ultimate Team, etc., tu dis, ah ouais, quand même.
Ouais. Et cette étude, justement, chiffre combien ces baleines, entre guillemets, peuvent dépenser par mois. Et il parle de 70 livres sterling ou 100 $ par mois sur juste des loot box, hein, minimum.
Sympa. Donc, 12 et 13 études sur le sujet ont établi un lien non équivoque entre lootbox et jeux d'argent. J'aimerais juste savoir par qui a été commandée la 13e. les jeunes garçons ont plus de chances d'utiliser des lootbox. La consommation de ces dernières augmente en corrélation avec le jeune âge et l'éducation.
Ouais.
Donc ça veut dire que plus t'es jeune, plus t'as de chances de... Voilà, parce que t'as pas forcément, tu sais, les réflexes aussi pour de te dire « Ah oui, ça, peut-être, faudrait que je fasse attention et tout. » Déjà que pour des adultes, c'est pas forcément évident.
Ouais.
Alors, des mômes qui, tu sais, n'ont pas cette aptitude de s'arrêter tout seul, en fait, ça pose quelques petits soucis. Voilà.
Ouais, et...
Donc ça, c'est les principaux chiffres de cette étude.
Ouais, et il y a aussi tout un truc aussi dans cette étude qui a tendance aussi, parce que souvent on se dit oui, mais les baleines, elles payent autant parce qu'elles peuvent se le permettre. Et très intéressante cette étude justement parce qu'elle a tendance un peu à contredire ça, cette tendance-là, puisqu'il y a aussi en fait un lien qui a été établi dans cette étude entre finalement, la classe sociale et les personnes qui dépensent de l'argent dans des lootbox. Et on se rend compte que finalement, les gens qui dépensent beaucoup d'argent dans les lootbox, ben, ça a plutôt tendance à être des gens pas forcément très à l'aise d'un point de vue financier. Et c'est là que, pour le coup, on en vient au vrai danger et qui ressemble beaucoup aux problématiques du jeu d'argent, c'est que au final, le jeu d'argent, il va te mettre vraiment dans la merde, mais aussi des gens qui sont déjà dans la merde. Donc ça pour le coup, c'est aussi pour ça. Et vous le savez, au Royaume-Uni, on fait très très attention au jeu d'argent, donc au gambling et à ces situations de choses qui deviennent tellement répétées qu'elles en deviennent habituelles. C'est aussi pour ça que c'est interdit dans certains endroits, que c'est interdit aux moins de 18 ans, etc., et que c'est très surveillé. Mais pour le coup, évidemment, ce qui intéresse beaucoup le législateur britannique, c'est de savoir, est-ce qu'on peut dire que la loot box, c'est du jeu d'argent? Et pour l'instant, ça a tendance, en tout cas, la littérature scientifique autour de ça, a plutôt tendance au Royaume-Uni à dire que oui. Maintenant, le problème, c'est que, est-ce que le corps législatif va réussir à en faire quelque chose? Parce qu'il y a aussi, vous savez, quand on écrit une loi, il faut être très très précis sur les choses, sinon, c'est le meilleur moyen pour les personnes qui seraient plus ou moins concernées de s'en échapper. Et là, en l'occurrence, justement, cette étude conclut en disant il serait très bien de très nommément et très précisément dire ce qu'est une loot box et pourquoi c'est du jeu d'argent. Sinon, en fait, ils vont réussir à trouver une tangente et à continuer.
Alors, Kiltia qui dit quelque chose de très intéressant dans le chat. Après, ils font des études, mais le Royaume-Uni et l'Allemagne ont pas vraiment envie d'interdire les loot box. Ils veulent plutôt les réglementer. Oui. Alors certes, oui, mais déjà, les réglementer, je vous avertis, les éditeurs, ils en veulent pas de la réglementation. Bah, bien sûr. Déjà, c'est un bon début, déjà. Hein. Oui. Et surtout, c'est important de nommer les choses, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand officiellement, tu auras plein de pays qui vont dire c'est du jeu d'argent, les éditeurs ne pourront plus dire ah oui, c'est des mécaniques surprises. Et ça, quand tu commences à dire à tes clients qu'en fait tu fais du jeu d'argent, ben il y a des parents qui vont commencer à faire attention déjà. Et ça va forcément baisser les revenus. Et moi, tout ce qui peut baisser les revenus de ces saloperies, je suis pour.
Ouais. Il y a aussi un certain nombre de recommandations en dehors du fait de précisément définir tout ça. Il y a aussi le fait d'imposer à l'éditeur de dire quelles sont les chances exactes pour le consommateur d'obtenir le fruit, on va dire, rêvé de la loot box. Donc on va dire le personnage 5 étoiles ou le machin, enfin ce que vous voulez. Et aussi combien en moyenne d'argent vous devez dépenser pour arriver à cette chance-là. Parce qu'il y a tout un système de cotes, évidemment, mais ça qui sont inconnus, hein, parce qu'on ne sait pas du tout si le Zidane 5 étoiles, prestige légendaire, mon cul, c'est une chance sur un million ou une chance sur un milliard. On n'en sait rien. Et il y a aussi le fait que, bah, du coup, une chance sur un milliard, ça veut dire combien de lootbox, ça veut dire combien d'argent. Ça, tout ça, c'est des choses aussi que cette étude recommande. Mais évidemment, tout ça ne peut pas être mis en place s'il n'y a pas de réglementations fortes qui sont implémentées.
Exactement. Bon, bah écoute, moi j'ai pas grand chose à rajouter sur le sujet, si ce n'est pour conclure, comme d'habitude, j'insiste, hein, les bonnes loot box, ça n'existe pas. Hein, tu peux mettre du cosmétique, tu peux mettre des mécaniques de jeu, tu peux mettre ce que tu veux derrière. Hein, ce qui pose problème, c'est pas le contenu de la loot box.
C'est son existence.
C'est le principe même que c'est du jeu d'argent. C'est ça. Tout simplement.
Ok, bon, voilà, je pense que c'est assez clair. On va passer à la suite et à la dernière news de cette semaine qui concerne Intel. Intel, vous le savez, fabricant notamment de processeurs, qui se dit, vont peut-être innover dans le champ de la, on va dire, la toxicité dans le milieu du jeu vidéo. Vous savez, c'est un truc dont on parle assez régulièrement, c'est le fait que, notamment dans les jeux compétitifs, et tu l'as cité tout à l'heure, Tyran, Tu t'es remis à Dota 2, mais tu ne veux pas jouer au jeu en vocal. Déjà, un, pour pas insulter les gens, mais aussi pour pas te faire insulter. Parce qu'il y a un truc, évidemment, qui est assez répandu dans ce genre de jeu, c'est que souvent, quand tu es en vocal, tu te fais « flame », entre guillemets. Et Intel se dit, il y a peut-être un truc à faire avec l'intelligence artificielle. Tu mets une intelligence artificielle dans un chat vocal et tu lui dis un certain nombre de mots et tu lui fais apprendre ce que sont des termes toxiques ou des phrases toxiques et tu lui fais censurer tous ces trucs-là avant même que l'auditeur à qui c'est dirigé les entende. C'est un système qu'ils appellent Bleep, donc ça veut simplement dire Bip en anglais. Et bon, on n'a pas eu du tout de présentation ou quoi que ce soit, c'est simplement une idée. Quelque chose sur lequel ils sont en train de travailler, mais pour l'instant on n'a pas encore eu de démo de ce point de vue là, mais j'avais envie de te poser une question. Est-ce que toi, ce genre de technologie là, ça t'intéresse?
Alors moi, ce genre de technologie, à chaque fois ça me fait lever les yeux au ciel, parce que ça, c'est typiquement les boîtes qui croient qu'elles vont résoudre tous les problèmes avec des ordinateurs.
Ouais.
C'est le cas de Google, toutes ces boîtes-là, c'est le cas de Steam aussi, enfin toutes ces boîtes qui croient que on va tout automatiser et que il y a pas besoin d'être humain derrière pour gérer le truc. Je suis désolé, moi ça marche pas, parce que déjà moi je crois plutôt à la solution qui consiste en dire que entre guillemets c'est la manière dont tu vas game designer ton jeu qui va faire que les gens vont être plus ou moins civils, c'est-à-dire que si tu mets les outils à disposition des joueurs on va dire sanctionner les gens qui ne respectent pas les autres, crois-moi que si la sanction elle est lourde derrière et que les gens ils sont défoncés, ça va prendre du temps. Je dis pas que c'est la solution magique, etc., mais je pense que déjà ça va bien descendre de 2-3 tons, tu vois, sur le souci. Et surtout, t'auras beau mettre des bips sur ce que disent les gens, alors déjà y a pas besoin d'insulter les gens pour que être fortement désobligeant, hein. C'est juste que les gens s'adapteront, hein, et ils trouveront des moyens détournés pour te faire comprendre que t'es une grosse merde, quoi. C'est juste qu'ils insultent, ils mettront pas d'insultes dedans. Voilà, bon, bah, ok, oui, bah, c'est super. Bon, je suis pas sûr que ça va résoudre le problème. Maintenant, la seule intérêt que je pourrais trouver à un truc comme ça, c'est à la limite qui est même pas, tu sais, la partie où on coupe l'insulte. C'est que à chaque fois que ce programme détecte une insulte, il envoie un rapport à un modérateur qui regarde le replay du match et qui décide en fonction du contexte, parce que c'est toujours ça le problème. C'est que moi, des fois, tu sais, même avec des potes, ça peut m'arriver de balancer des merdes, enfin des putains, des machins, des trucs, et c'est même pas que t'as insulté les autres, c'est que tu forcément t'es un peu sanguin et forcément tu balances des jurons, quoi. Là. Bon, est-ce qu'on va biper à chaque fois que quelqu'un balance un juron? Bon, moi je pense que tu ne peux pas faire sans l'humain, et l'objectif de ce truc c'est de faire sans. Pour moi, ça peut pas marcher.
Ouais. Puis il y a aussi un truc qui poserait éventuellement problème, c'est qu'il y a probablement une problématique de délai. Le temps que l'IA gère ce qui vient d'être dit et puis te le rebalance si jamais c'est ok, c'est pas évident, quoi. Faut aussi voir comment c'est géré. Après, je suis assez d'accord avec toi, c'est difficile de gérer ça, enfin totalement automatiquement. On le sait, les choses qui sont gérées automatiquement, d'une manière générale, ça ne marche pas, ou alors c'est bancal. Donc après, moi, je veux bien, quand on m'a présenté le RTX Voice, je me suis dit, attends, mais c'est dingue, ce truc. Est-ce que ça va vraiment marcher? Et pour avoir entendu des tests, pour le coup, ça marche vraiment, tu vois. Après, c'est différent de gérer un fond sonore qui est uniforme, de une explosion de jurons, voire même...
Dans un micro bien dégueulasse.
C'est ça. Et il y a aussi le fait que on parle pas que d'insultes, on parle de toxicité. Et la toxicité, ça n'est pas que des insultes. Et du coup, c'est. Et puis il parlait aussi d'une espèce de curseur, de tu sais, de, d'une espèce de gradation dans la toxicité. Mais comment tu vas gérer ça, toi? Est-ce que toi-même, en tant qu'utilisateur, tu vas remplir toi-même ta liste de triggers? Enfin, non. Je suis désolé, mais donc je sais pas. Je suis. Voilà, moi je leur laisse le bénéfice puis, du tout. J'aimerais voir une démo, mais bon.
Mais même tu vois qu'il check, il donne un exemple dans le chat. Et quand t'es une femme, les bips ça va y aller. Est-ce que un bip c'est moins vexant qu'une insulte? Parce que quand tu entends le bip, tu sais du coup qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois. Et tu le sens dans le ton de la personne qu'il y a quelque chose qui va pas.
Oui. Je pense pas que ça va aider aux gens.
Le problème c'est pas l'insulte
de
en elle-même, c'est l'intention, tu vois.
Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Oui, parce que enfin, moi c'est aussi pour ça que je joue pas en ligne. C'est que il y a énormément de manières pour les gens de te faire comprendre que tu n'as rien à faire là. Et ça ne passe pas forcément que par des insultes. Ça peut très bien passer in-game. Vous savez, sur StarCraft 2 notamment, il y a ces fameuses Manor Mules. Chez les joueurs Terran qui veulent te voir quitter leur partie, ils te balancent des items qui sont normalement utilisés pour gagner du pognon, ils te le balancent devant toi pendant la fight. Histoire de te dire casse-toi gros, t'es nul. Et bah ça, excuse-moi, mais tu ne peux pas l'enlever du jeu, tu vois. Et pourtant bah oui. Ça reste de la toxicité en ligne, donc c'est très compliqué. Je j'ai pas envie de paraître pessimiste de ce point de vue là, mais c'est vrai que pour le coup j'ai beaucoup de mal à m'imaginer qu'on règle ce genre de souci là par autre chose que de la pédagogie finalement, et aussi de la sanction purement et simplement,
et de la tolérance zéro surtout, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que par contre, une fois que t'as constaté le problème et que t'as un modérateur qui a validé que ah oui là non ça va pas être possible, non effectivement là je te confirme, non ça va pas être possible, y a pas de discussion quoi, boum, tu dégages et puis c'est tout quoi. Ou on te met dans ce que j'aime bien, ce que font certains jeux, on te met avec les connards, tu vois, c'est tu peux jouer à ton jeu, ouais, mais par contre tu vas y jouer avec les autres connards là-bas, voilà.
Et amuse-toi bien.
Des bisous.
Ok, bon, quelque chose à rajouter là-dessus?
Oui, non, bah écoute, de toute façon, hein, si je, comme dit LKBD, hein, si je peux même plus lancer des jurons, moi je vais te bannir tout de suite, hein, parce que dans Dota là, putain, moi je te dis, ça y va là. Hein, mais connard, putain, mais pourquoi tu vas là? Mais putain, non, mais bordel. Moi quand je joue à Dota, ça, je vous dis, le jeu il m'en mauvais. Hein, c'est pour ça que je mets pas mon micro, parce que mais c'est même pas que j'en veux aux gens, en fait, tu vois, c'est juste, c'est quasi un réflexe, tu vois, c'est, tu vois les gens qui font n'importe quoi, t'as envie de dire, mais putain, donne-moi la manette, vas-y, donne-moi, tu vas là, tu vois, hein, tu fais ça, et puis. Ouais.
Et c'est vrai que, au-delà de ça, il y a quand même un certain type de jeu qui a tendance à échauffer, quoi.
C'est ça.
C'est typique des jeux compétitifs, parce qu'il y a un enjeu. Et puis il y a aussi l'enjeu de pas trop perdre ton temps, parce que quand tu fais 40 minutes de game, bon, l'objectif, c'est pas de les perdre toutes, quoi. Donc forcément.
Et c'est aussi de ça que je parlais quand j'évoquais le game design. Effectivement, quand t'as des games de 40 minutes, ça te fait chier de les perdre. Hein.
Ben enfin, c'est ça.
Pas forcément de les perdre, mais en tout cas, ça te fait chier quand tu les perds parce que t'as quelqu'un qui a fait n'importe quoi.
Ouais.
C'est surtout ça. Parce que encore perdre des games, tu sais, quand t'as une bataille épique et que bon, ok, les gars, ils ont été meilleurs en face. Bon, voilà, tu t'inclines, tu dis chapeau, c'était beau, merci pour la game, au revoir, quoi. Mais quand c'est parce que t'as trois trous de balles là qui sont allés à l'au bout de la map pour faire n'importe quoi, là ça t'énerve quoi, parce que tu vois que t'avais la victoire à portée de main, t'as perdu 40 minutes et que les autres ils ont fait n'importe quoi. Ouais. Donc
tu vois, Kiltia qui dit que Rainbow Six ça dure un quart d'heure, c'est rapide, et je trouve que des parties plus rapides, ça a tendance justement à faire en sorte que bon bah tu la loses, c'est pas grave, il y en a une autre qui arrive. Par contre, si t'as 45 minutes à donner à ton jeu, t'as une heure par jour à donner à ton jeu. Si ta game elle fait 45 minutes et que tu la perds dans les 5 dernières minutes, évidemment que tu vas te mettre à rager. Maintenant, si t'as une heure à balancer dans ton jeu et que tu fais 4 games d'un quart d'heure, bon bah s'il y a 2 lose, 2 win, c'est très bien. C'est pas grave.
Bah après aussi c'est une question de laisser choix, tu vois. Je pense c'est que moi ça me pose pas de problème, un souci, enfin de souci, un jeu qui te demande d'avoir 45 minutes du game, du moment que t'as aussi d'autres options pour des games peut-être plus courtes, différents modes de jeu en fait. Après, je sais que ça pose aussi des problèmes parce que du coup, ça éparpille ta communauté. Et en fonction des jeux, c'est peut-être pas un bon plan.
Ouais, bien sûr. Hein.
Mais après, ça peut attirer d'autres joueurs aussi.
C'est sûr.
Voilà.
C'est sûr. Mais après, effectivement, de toute manière, que les games soient courtes ou longues, s'il y a une répétition de défaites et une répétition de défaites qui sont vécues toujours à cause des partenaires de jeu, bon, au bout d'un moment, de toute manière, que ta game soit courte ou pas, tu vas commencer à rager de la même manière. Donc ces problématiques sont pas évidentes, c'est pour ça qu'on en parle, parce que on n'a pas la solution. Après, c'est vrai que je me mets un petit peu à la place des développeurs, et comment veux-tu gérer tout ça, c'est pas évident.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera pas gérable sans humain derrière, encore une fois.
Ouais.
Y a pas de secret, hein. Ça coûte de l'argent, oui, mais quand tu t'appelles Dota, je pense que tu as les moyens.
Oui.
Enfin, là, je dis Dota parce que c'est le jeu auquel je joue en ce moment, hein, qu'on soit clair. Hein. Je pointe pas Dota spécifiquement, machin. Hein. C'est le cas de à peu près tous les gens en ligne qui espèrent que on va régler tout ça à coup de baguette magique en faisant de l'automatique, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ok. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus qu'on va vous laisser pour cette semaine. On vous souhaite évidemment une très bonne semaine prochaine. Évidemment. Ça se passera sur Twitch radio_gameinfo, donc twitch.tv/radio_gameinfo, sur notre site web gameinfo.fr pour ceux qui écoutent le replay, on va dire. Et puis évidemment, on vous remercie, que vous soyez auditeur du live, mais aussi auditeur sur vos applications traditionnelles de podcast. N'hésitez pas à balancer un petit commentaire sur le site pour passer éventuellement dans un prochain courrier des lecteurs. Et puis d'ici là, portez-vous bien, et surtout, jouez bien.
Des bisous.